c'est cette connerie?
C'est le canu info. Ah! Mais je sais pas. Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios? La plus rebelle des radios. Waouh!
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton alcoolémie et ton péché. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec sur la tête. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille Info.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez tout. Canu Info du vendredi. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2, c'est le Canu Info du vendredi 27 janvier. Et pour le 27 janvier, on a un petit peu chamboulé nos rubriques, puisqu'on ne va pas faire simplement, on ne va pas partir sur une rubrique locale comme souvent, mais on va commencer par une rubrique logement. Et hier, on est allé porter nos micros vers des parents d'élèves qui étaient devant l'école Berthelot, dans l'avenue, à l'avenue Berthelot, sur l'avenue Berthelot, une école où ils manifestaient contre le fait que deux familles se retrouvent à la rue. Voilà, donc petit entretien qu'on vous passera dès le début de l'émission. Et puis ensuite, grosse séquence violence policière.
Voilà, et on vous parlera entre autres donc d'un lycéen qui s'est fait tabasser par la police à Paris.
On vous passera ensuite un petit reportage, puisque le micro du Canu Info du vendredi traînait la semaine dernière lors de la marche qu'il y a eu en soutien à Adama Traoré dimanche.
Voilà, c'est ça, dimanche après-midi. Alors vous en avez eu un aperçu également dans le Canu Info du lundi, il y avait un très bon reportage. Et là c'est un autre reportage qui a été fait par d'autres personnes et qui est très bien aussi.
Merde, je sais plus où on en est. Après on va parler du procès d'un flic à Marseille et de l'audience de deux flics donc à Rennes.
On enchaînera ensuite avec l'information nationale.
Pour vous annoncer la mauvaise nouvelle que le projet du TAV, le TGV Lyon-Turin, a été validé.
Validé par le Sénat. Et on parlera également des médecins qui refusent la CMU et la ME, les méchants.
Et voilà, et ensuite on basculera donc dans l'international et on vous parlera donc de la grève des ouvrières du textile au Bangladesh.
On parlera également de la division des Européens au sujet des OGM.
Et puis on vous parlera aussi d'un militant du syndicat IWWW qui a été blessé par balle la semaine dernière à Seattle.
À Seattle aux États-Unis. Voilà.
Et pour le moment, on passe donc à la rubrique logement.
La réponse à la question du manque de logement, vous le savez très bien.
moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Rubrique logement, donc, on était hier devant l'école Berthelot sur l'avenue Berthelot dans le 7e arrondissement. Et à nouveau, parents d'élèves, pardon, soutenus également par le collectif Jamais sans toi et des syndicats de parents d'élèves, donc, manifestaient pour rappeler aux autorités leur devoir de loger deux familles qui sont à nouveau dans la rue. Cette histoire fait suite aux histoires de gymnase que la municipalité et la préfecture ont eu du mal à ouvrir il y a de ça 2 semaines. Alors aujourd'hui, il y a 3 gymnases d'ouverts, il y en a un qui risque de fermer ce mardi. Il y a encore du monde à la rue à Lyon. Ça fait suite également aux grèves dont vous a parlé la semaine dernière, avec notamment la surcharge du 115, qui est très 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 difficile à appeler parce qu'il n'y a pas assez de travailleuses et de travailleurs derrière ce numéro, et plus globalement les grèves des professionnels de l'urgence sociale. Voilà, on a enregistré un entretien, on vous le fait écouter tout de suite.
La maman d'une petite fille donc de 6 ans qui est scolarisée à l'école Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon. Et en tant que parent représentant donc FCPE et également en tant que parent tout court, on se mobilise ce soir en fait pour pouvoir aider une famille dont l'enfant est scolarisé donc au sein de notre établissement depuis maintenant 1 an et demi et qui depuis ce matin est à la rue. Donc lui, son frère de 13 mois ainsi que leurs parents en fait. Et donc ils n'ont nulle part où aller.
Radio Canu entretien.
Pour visibiliser l'événement, en fait, on a créé une soupe solidaire dont les fonds récoltés seront donnés donc à la famille pour pouoir l'aider à se payer des nuits d'hôtel, à faire au mieux en fait avec ce qu'on pourra faire. On essaie de faire un maximum de bruit pour éviter que ces situations en fait se généralisent et que ça devienne normal.
Ben, je suis Nadia, je suis parent d'élève à l'école Berthelot, je suis parent d'élève élu FCPE. J'ai 2 enfants à l'école Berthelot. Alors devant l'école Berthelot, on fait une soupe solidaire pour aider 2 familles qui se retrouvent à la rue. Il y en a une qui se retrouve à la rue ce soir et une autre qui est dans un gymnase qui vient de s'ouvrir, je crois Bellecombe, mais qui va être à la rue dans quelques jours parce que mardi ce gymnase doit fermer. Donc ces 2 familles ont 2 enfants. La première famille a 2 enfants de 1 an et 5 ans et la deuxième famille a 2 enfants de 10 ans et 15 ans. Alors la deuxième famille, elle vient juste d'arriver à l'école, c'est une famille qui venait d'Italie et par contre ils n'ont pas de logement quoi, ils ont essayé les démarches par le 115, tout ça. Bon, pour l'instant ils sont juste dans un gymnase, mais ils aimeraient avoir une solution plus pérenne et plus digne surtout d'hébergement quoi.
Du coup, tout à l'heure on m'a dit qu'il y a une famille qui a été expulsée du CADA, c'est ça?
Oui, alors en fait c'est ça, c'est une famille qui était en demande d'asile, donc une famille russe d'origine arménienne. Ils avaient une situation en Russie, ils avaient une maison, ils avaient un travail, ils ont dû fuir la Russie suite à des persécutions, notamment leur maison qui a été brûlée. Là, ils sont en France depuis 1 an et demi, donc ils avaient fait une demande d'asile, ils étaient hébergés dans un CADA, et leur demande d'asile a été refusée, ils ont fait un premier recours qui a été refusé, et donc là, le 26 janvier, donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait une soupe solidaire, ils quittent le CADA, en plein hiver, donc nous, on trouve ça assez scandaleux qu'on puisse expulser une famille en plein hiver.
Donc concrètement, on a pris la famille, on a refermé les portes derrière elle, on lui a dit
concrètement, voilà, on leur a dit à partir du 26, ils ont dû signer un papier comme quoi à partir du 26, ils pouvaient plus dormir dans cette chambre. Ils doivent vider la chambre, enlever toutes les affaires et partir. Nous, on veut une vraie réponse des pouvoirs publics aux personnes qui sont à la rue, quoi. Quelle que soit leur situation, qu'elle soit française, étrangère, voilà, quelle que soit leur situation.
Et est-ce que vous avez eu réponse pour l'instant des pouvoirs publics?
Alors, de la mairie, on nous a envoyé vers le gymnase Clémenceau. On s'y est rendu, donc il y a quelques jours. Et là, on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire rentrer comme ça directement la famille et qu'il fallait passer par le 115. Et le 115, on n'arrive jamais à les avoir. Ça fait 1 mois et demi qu'on les appelle, le 115, ils sont injoignables. En 1 mois et demi, on a appelé plein de fois, on a dû les avoir 1 fois ou 2. Bah moi, j'ai entendu dire, alors à vérifier, qu'il y avait une seule personne qui tenait le standard, donc pour toute la région. Donc c'est vrai que quand on appelle, ça sonne occupé en permanence, ça coupe automatiquement. Et c'est vrai que nous, on a essayé de contacter des foyers directement, mais à chaque fois, on nous renvoie vers le 115. On dit non, on ne peut pas prendre cette famille directement. Il faut tout passe autour du 115. Et comme le 115 est complètement bloqué, bah, c'est sans issue, quoi, en quelque sorte. Et à la maison de la veille sociale, on nous a parlé de délais de 10 à 12 mois d'attente. Donc voilà, on se dit, c'est plus de l'hébergement d'urgence dans ce cas-là, quoi. Cette lutte, elle rejoint celle des professionnels de l'urgence sociale, de toutes les personnes qui se sentent indignées par cette situation, par oui, voilà, la façon dont on traite les personnes qui sont à la rue, quelle que soit leur origine et leur situation. Et que nous, on demande au pouvoir public de jouer leur rôle de défense des personnes en détresse, en fait. Donc on renvoie au code de l'action sociale et des familles que toute personne en détresse a droit à un toit et que l'État, normalement, doit répondre à ses besoins. Et donc en fait, tout le monde dit qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement, quoi, concrètement, quoi. Donc ça fait un énorme embouteillage et il y a apparemment 2000 personnes sur Lyon qui appellent le 115 sans solution.
Tous les soirs en ce moment.
Oui.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police mutine
Violence policière. Oui, dossier violence policière, donc on vous rappelle à ce sujet, on en reparlera tout à l'heure dans le jardin, qu'il y a une manifestation samedi à Vénissieux à 14h30 pour soutenir la famille qui exige justice suite à la mort de Mehdi. Vous en avez sans doute entendu parler. On vous redonnera précisément le rendez-vous tout à l'heure. Violence policière donc, et ça se passe vendredi dernier d'abord à Paris. Ça se termine par 8 jours d'ITT, 4 points de suture à l'arcade sourcilière, des injures racistes et une nuit glacée au commissariat. Vendredi dernier donc, Maxen, c'est un lycéen en première ES, rejoignait des amis après le lycée dans un bar parisien. Sur son chemin, une rixe éclate au loin, dans la rue, et la BAC intervient sous ses yeux. Il ne prend pas du tout part à la rixe, hein, c'est une bagarre qui a lieu un petit peu plus loin. Au mauvais endroit, au mauvais moment, il est lui-même, à ce moment-là, contrôlé par la BAC, et c'est là que ça tourne très mal pour lui. Un policier le pousse dans le dos pour lui signifier qu'il ne se rend pas assez vite vers ses collègues qui veulent le contrôler, et du coup le jeune homme poussé dans le dos se montre légèrement agacé et il chip, comme on dit, il fait un truc du genre enfin je le fais très mal, mais enfin bon, bref, il chip. Le policier le pousse alors encore une fois dans le dos avant de lui faire une prise d'étranglement. Ça nous rappelle la triste histoire d'Adama Traoré dont on reparlera dans un instant. Le gamin est donc à ce moment-là étranglé. Il essaie de tirer sur le bras du flic pour trouver de l'air, et vu qu'il tire sur le bras du flic, le flic lui dit à ce moment-là « Tu veux jouer du pied-point ?» et il lui assène un gros coup de poing dans l'arcade. Avant de se tourner vers ses collègues et de dire, après avoir donc frappé à l'arcade l'adolescent, « Jackie Chan, il fait le show ». Alors pourquoi le flic dit ça ? Eh bien parce que Maxen est d'origine asiatique et ça se voit sans doute un peu trop pour les baqueux qui aiment surtout les gens bien blancs. On lui passe ensuite les menottes et on l'embarque avec 3 autres personnes au commissariat, ceux de la rixe pour lesquels ils étaient intervenus. Donc il y a ces 3 personnes qui étaient en train de se battre dans la rue que les baqueux arrêtent, plus Maxen qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et qui a l'arcade, qui pisse le sang à ce moment-là. Et dans la cellule, justement, il continue de saigner pendant un long moment. Et puis au bout d'un certain moment, ça commence à faire désordre. Il demande des Kleenex pour essayer de canaliser le sang. Les flics se décident quand même à l'amener aux urgences. Les médecins lui font des points de suture pour refermer sa plaie et constatent des lésions au cervical avant que les flics le ramènent dans sa cellule pour finir sa nuit au commissariat. Le lendemain matin, il est toujours dans sa cellule, il a très peu dormi, il a eu très froid pendant la nuit, on n'a pas voulu lui redonner de couverture, et il est aux côtés de son avocat commis d'office. Et là, Maxen, il apprend que le baqueux qui l'a frappé vient de porter plainte contre lui. Alors sans doute que le baqueux, il a eu peur, puisque Maxen, il est allé se faire soigner pendant la nuit, donc il s'est dit, il va porter plainte contre moi, donc je vais prendre les devants, je porte plainte contre lui. Il porte plainte contre lui, et les deux autres baqueux qui étaient là avec lui sont ses témoins, et ils témoignent en faveur de leur collègue. Voilà donc une nouvelle brève de la violence policière. Il y en a de très 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 nombreuses, et il ne faudrait pas confondre ces brèves avec des faits divers. Tout à l'heure, on vous racontera des faits divers parfois un peu drôles. Là, ça n'est pas le cas du tout. Au-delà du fait que c'est pas drôle, c'est pas non plus un fait divers. Hein, et d'ailleurs, sur les pratiques de la BAC, quand on essaie de les mettre en série, eh bien, on se rend compte que ces violences sont tout à fait structurelles. Et du coup, on vous conseille là aussi le déjà ancien livre de Didier Fassin qui s'appelle « La force de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers ». C'est une enquête qui a maintenant 10 ans, mais les méthodes n'ont pas changé, les comportements violents non plus. Et le racisme d'une certaine police est toujours de mise. Et en parlant de violence et de racisme, il y avait une manifestation dimanche dernier à Lyon qui faisait suite à un week-end spécial de soutien à la famille d'Adama Traoré à Saint-Étienne et à Grenoble. Et la manifestation avait donc lieu dimanche dernier dans les rues de Lyon. Elle est partie de Jean Massé et elle s'est terminée place Guichard. On a un petit reportage.
Le dimanche 22 janvier, on vient de partir de la place Jean Massé à Lyon, et c'est une manifestation en soutien à la famille d'Adama Traoré, qui a été tuée par la police pendant son arrestation en juillet dernier.
On n'oublie pas, 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 on
n'oublie pas. Adama est mort le 19 juillet. Sous les mains des gendarmes. On attend la vérité. On a découvert des mensonges. On a découvert des choses abominables.
La police assassine. La police fugit. 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 La police assassine.
Bah, du coup, on est ici pour le rassemblement en l'honneur de la mémoire d'Adama Traoré et aussi pour toutes les victimes de l'état raciste policier dont on subit les pertes chaque année, quoi. Et donc, j'ai une banderole en soutien à Bagui, le frère d'Adama Traoré, qui a été incarcéré suite à l'acharnement judiciaire contre sa famille pour pouvoir contrer un peu tous les mouvements de révolte sociale pour Adama. Donc voilà.
On n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas.
Je suis là parce que justement sur ce week-end, nous on est de Saint-Étienne en fait, on n'est pas de Lyon. Et vendredi soir, il y avait une projection d'un documentaire à Saint-Étienne en rapport sur les violences policières et dans les banlieues. Et du coup, on y est allé pour voir. Il y avait la famille d'Adama Traoré aussi qui a parlé pas mal. Et puis du coup, on s'est dit que c'était l'occasion aussi de venir ici en soutien. On est pas mal investi politiquement sur Saint-Étienne. Du coup, on a été pas mal investi dans les mouvements sociaux. On a été un peu victime de la répression aussi. Et ça nous a permis aussi de réaliser qu'en fait, cette répression-là, elle était beaucoup plus grave et beaucoup plus importante dans les quartiers et depuis bien plus longtemps.
Alors moi je suis Abdel du FUIQP, du Front Uni des Immigrations et Quartiers Populaires à la Villeneuve, Grenoble. Et on a organisé avec d'autres camarades sur 3 jours des événements autour de la mort tragique de Adama Traoré et contre les violences policières. Donc avant vendredi c'était à Saint-Étienne, samedi c'était à Grenoble, On a invité la famille Adama à venir expliquer comment elle a vécu la chose de l'intérieur. Et on a ouvert une discussion, on a fait un concert ensuite. Et on a récolté des fonds pour financer les frais de justice lourds auxquels est confrontée la famille. Et aujourd'hui, là, dimanche, on est à Lyon. Et on a une grosse manif contre les violences policières et pour réclamer justice pour Adama Traoré.
Libérez Paris ! Libérez Paris ! Libérez Paris ! Libérez Paris ! Libérez Paris !
Nous, on va lutter. On n'a que ça à faire. On parle aujourd'hui, demain, on va parler. On lutte, on lutte, on lutte. Adama, il est parti, il ne va plus revenir. On lutte pour que ça ne se reproduise plus. Pour que ça ne se reproduise plus. Pour que ça cesse. Donc, justice, vérité pour Adama, pour toutes les victimes. Merci beaucoup.
On lâchera rien, on lâchera pas l'affaire. C'est pas le premier, il y a 15 morts par an, on les oublie, on parle d'Adama, mais on est là pour tous les autres. Mehdi en l'occurrence, et tous ceux qui ont affaire aux violences policières, telles qu'elles soient. Donc, relève la tête, on est tous ensemble, on fait du boucan, on est là, et ils le savent, on est là, on
reste... Adama, Mehdi, Adama.
Tu peux me dire ce qu'il y a marqué sur ton t-shirt?
Eh ben, en fait, j'ai marqué Mehdi, repose en paix. C'est mon beau-frère, hein, le mari de ma petite sœur, qui a 24 ans, qui venait d'accoucher, ça faisait 14 jours à peu près. Il fêtait la naissance de sa fille. Et malheureusement, il est mort d'un accident de scooter. Et dans le dossier, comme d'habitude, les forces de l'ordre encore dedans.
Merci à tous. Moi, je suis la sœur de Mehdi qui est décédée le 11 décembre à Vénissieux. Voilà. Aujourd'hui, on est là parce qu'on souhaite l'ouverture d'une enquête, parce que c'est un accident de la circulation et que nous, on considère que ce n'est pas un accident de la circulation.
Aujourd'hui, on est là pour Adama. Mais on demande aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui viennent à la marche aussi pour Mehdi, parce que ça commence à être fatigant de voir tout ça là. Que nous, quand on fait des conneries, tout ça, ils savent venir nous chercher, nous condamner. Et par contre, quand il s'agit de eux d'être en faute, ils ne les condamnent pas. Donc on réclame la justice, la vérité, l'ouverture d'un dossier. Parce que quand on pose des plaintes, on nous fait galérer, donc on demande... une justice, que ça soit pour Adama et que ça soit pour Mehdi et que tous les autres, que tout ça cesse.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis la cousine de Mehdi. Voilà, pour ceux ou celles qui viennent d'arriver, je tenais juste à vous rappeler que la marche pour mon cousin sera samedi 28 janvier. Donc, on partira de l'endroit où il y a eu ce drame, c'est-à-dire à Vénissieux, à l'angle de la rue Roger Salengro et à l'angle de la rue Francis de Pressensé. Et on marchera jusqu'à Marius Berly, jusqu'au commissariat Marius Berly. S'il vous plaît, venez nous soutenir, tout comme pour Adama, tout comme pour tous les autres. On est là pour eux, vous êtes là pour nous et on vous remercie beaucoup.
Donc si un maximum de personnes peuvent venir pour soutenir la belle famille à ma soeur et surtout sa fille qui a même pas un mois. Donc voilà, je demande à énormément de monde de se mobiliser, surtout que c'est un Lyonnais. Donc un maximum de Lyonnais pour nous soutenir dans ce long et dur combat.
Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse. Je suis inconnu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre, il faut que ça cesse. Si c'est à moi de prendre le micro, laissez-moi m'exprimer ainsi. Chou, le rythme suit la route, tu connais la soirée. Plus toutes, le poissy assassin fait partie des gens qu'on écoute. Des coups qu'on redoute, mais sur écoute, les agressions sur ma route. Vu qu'on ouvre notre gueule quand l'État français assassine, on ne laisse pas passer le crime. On ne laisse pas passer le crime. Si je laisse passer le crime d'hier, demain, ce sera des larmes sur les joues de ma mère. Mes mains, posées seules sur la feuille, même un jour de deuil. Le terrain est hostile à mon style, écrivain assassin. J'ai écrit l'État assassine avec un goût amer. L'État policier n'a pas épargné la vie bousienne à Abdelkader. Ni celle de Jawad Zawiya, paix à leur famille. Et justice pour ces cas, que la lumière brille. Même si le rap est bastonné sur des radios nationales, la plupart des groupes vendent leur putain d'âme au chétan. On sait pourquoi on est dans le hip-hop depuis tant d'années. Pour ceux qui n'ont pas de bas puissent être entendus et respectés. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse. Je suis inconnu pour 80% d'affaires. innocents en grand nombre. Et pire, c'est que ça se passe comme ça dans tout pays. Trop de crimes impunis, torturés, sodomies. Dans les commissariats de notre république, leur dictature. Je m'implique, même si dans le paysage représente la rature. Toi, tu seras toujours l'ordure qui s'est cru au-dessus des lois. Ton uniforme n'est pas une armure. Crois-moi, on ne va pas laisser passer en France, pays des droits de l'homme. Des mises à l'amende comme dans le tiers-monde par des bâtards sous toutes leurs formes.
Murderer.
Sous toutes leurs formes.
Killa, killa.
Sous toutes leurs formes.
Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnue pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, 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 cesse. Famille, c'est dramatique, tragique. Pour notre république antidémocratique, quand la justice mène au trafic. Hit sur hit, je décapite l'élite. Procureurs et magistrats se mêlent dans les coups de l'État. Et dans l'affaire Lafarge, personne n'oublie Malika. Vous voulez qu'on respecte votre état policier, alors que le policier Iblou soit jugé pour ce qu'il est. Qu'on arrête de nous tirer dessus comme du gibier. Arrêtez vos coups de pression pendant vos contrôles d'identité. Arrêtez de nous contrôler quand on n'a rien à se reprocher. Si vous vous emmerdez quand vous patrouillez, changez de métier. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnue pour 80% d'affaires. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, 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 cesse.
Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Canu.
Et écoutez, Assassin, la police assassine.
Voilà, tout à fait. Donc c'est le Canu Info du vendredi. Et juste avant ce petit morceau musical, vous avez écouté un reportage donc sur la manif qui a eu dimanche dernier à Lyon, manif dont soutien à Adama Traoré. Et donc on reste dans les violences, alors pas forcément policières, donc parce que pendant que les flics tuent en France, et ben figurez-vous qu'en Belgique il se passe aussi des trucs un peu chelous. Donc là c'est des violences, mais c'est des violences faites par les chiens sur les facteurs. Et oui, parce que en Belgique, ben les facteurs se font mordre, voilà, par les chiens. Et en fait, et ben heureusement pour eux, alors en tout cas en Belgique, on sait pas en France, hein, mais en tout cas heureusement pour eux, a priori les chiens sont un peu moins vénères, puisque en 2010, donc la Belgique avait enregistré 47 facteurs qui avaient été mordus, et là en 2016, et ben il y en a eu plus que 28. Donc voilà, c'est une espèce de paix sociale entre les chiens et les facteurs. Donc tout s'arrange pour les Belges, en tout cas de ce côté-là. Donc,
riche voilà. Information, merci pour cette précision internationale ou européenne.
Merci effectivement pour cette brève. On revient dans notre rubrique violence policière, puisque ce matin, un policier a été jugé pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour avoir tiré sur un homme avec son flashball et ce qui a entraîné sa mort. Cette audience s'est tenue ce matin au terme d'un marathon judiciaire ponctué de nombreux rebondissements, on s'en doute. Les faits remontent à 2010. Le fonctionnaire de police avait voulu maîtriser un homme d'une quarantaine d'années qui résidait dans un foyer de travailleurs à Marseille. Et cet homme venait de blesser un de ses voisins à l'arme blanche et s'était retranché dans sa chambre. Le policier a donc voulu le maîtriser en lui tirant dessus tout simplement avec son flashball au niveau du thorax. Cet homme est décédé le lendemain d'un arrêt cardiaque. Lors d'un premier procès en 2014, Xavier Crubezi, le policier, comparaît pour homicide involontaire, mais le tribunal correctionnel demande un supplément d'information. L'enquête a en effet démontré que le policier avait utilisé son flashball à environ 4,40 m, alors qu'il avait été formé à son usage et qu'une note de la Direction Générale de la Police Nationale exige une distance minimale de 7 mètres. Et les médecins ont aussi établi que le décès était bien la conséquence directe et exclusive du choc thoracique. Le dossier est donc renvoyé à l'instruction, puisque le président du tribunal estime que les faits étaient de nature criminelle et donc passibles de la cour d'assises. L'enjeu, c'était de savoir s'il s'agissait d'une violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, crime passible donc de la cour d'assises, ou alors s'il s'agissait d'un homicide involontaire. Et fin 2015, après donc moult péripéties, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu le dernier mot et renvoie l'affaire en correctionnel. Elle a souligné que le policier n'avait certes pas tiré dans les règles de l'art, mais n'avait pas agi pour blesser ou tuer. On peut quand même se demander si un policier formé pour utiliser cette arme ne peut pas se douter qu'en tirant sur le thorax d'un homme à environ 4 mètres de lui, ça peut pas éventuellement soit le blesser, soit le tuer. Bref. C'est donc devant le tribunal correctionnel que le prévenu devait répondre ce matin d'homicide involontaire, délit passible de 3 ans de prison au maximum. L'intéressé invoque, on s'en doute, la légitime défense, tandis que le parquet a requis contre lui 18 mois de prison avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 3 mars, donc affaire à suivre. On rappelle quand même que depuis 2015, ce sont déjà plus d'une trentaine de personnes qui ont été gravement blessées par cette arme, dont une quinzaine qui ont perdu un œil et dont cet homme qui a perdu la vie. Dans le même sujet, c'est ce mardi 24 janvier que s'est enfin tenue l'audition de deux policiers mis en cause par la plainte d'un jeune homme qui a perdu la vue lors d'une manifestation contre la loi travail le 28 avril dernier.
Donc toujours par un flashball.
Du coup, ouais, c'est précisé après, c'est un tir de LBD, ouais, mais c'est le nouveau flashball, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, son œil gauche a été complètement détruit et il a eu le visage fracturé à 5 endroits différents. La défense des flics, elle est simple. Ils disent que la blessure de l'étudiant ne provient pas du tir de LBD, donc ce qu'on vous disait, la nouvelle version du flashball, mais d'un autre projectile. Ben voyons. Et on voit en plus très clairement sur une photo prise le jour de la manif un policier en position de tour avec le fameux LBD en direction du pont où se trouvait le jeune homme. Donc quand même, a priori, il s'est pas reçu un projectile qui vient de nulle part, quoi. Mais c'est leur ligne de défense. Et à savoir qu'à Rennes, c'est une quinzaine de plaintes pour des violences policières qui ont été enregistrées par le parquet depuis les manifestations anti-loi travail. Et d'après le syndicat solidaire, seuls 2 sont encore en cours d'instruction. Les autres n'ont pas donné lieu à des poursuites. Du coup, c'est vrai qu'en même temps, ils n'ont pas trop raison de douter d'eux et de leur impunité, les flics, puisqu'a priori, ce n'est pas trop suivi. Donc ce mardi 24...
Et puis que c'est très 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 difficile de se faire prendre des plaintes, puisqu'on doit les déposer auprès des flics.
Bah oui, de toute façon. Et donc là, il y a eu un rassemblement mardi d'environ 150 étudiants, salariés, syndicalistes, qui ont défilé à Rennes pendant l'audition donc, des deux policiers qui ont a priori blessé ce jeune homme. Donc l'enquête, elle est toujours en cours et l'IGPN, c'est la police des polices, je dirais, c'est ça. Voilà. Donc eux aussi, on imagine de quel côté ils se placent. Et ils doivent déterminer si les conditions et circonstances du tir étaient conformes aux principes de nécessité et de proportionnalité fixés par les textes réglementaires. Selon l'avocat des policiers, la question de la nécessité, elle ne se pose pas, puisque la violence des manifestants, c'est un postulat de départ. Donc voilà, on imagine... comment ça va se passer. Voilà. À toi.
Et oui. Et donc, moi, je vais revenir sur mes petites brèves. Puisque pendant ce temps-là, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Et ben, aux États-Unis, les flics, ils ont cru pécho. Donc, ça s'était passé début décembre. Ils ont cru pécho le fameux Heisenberg, le fameux dealer de Blumet. Enfin, je sais pas si les gens voient un peu qui c'est un personnage d'une série, voilà. Bref, qui deal de la méthamphétamine. Et donc,
une drogue, donc.
Hein?
Une drogue, donc.
Ouais, une drogue, oui. Oui, il faut rappeler que c'est une drogue. Mais donc, voilà, ça s'est passé début décembre, et donc, les flics ont cru choper un homme, et donc, qui avait la méthamphétamine, donc il a quand même passé 3 jours en prison. C'était au Texas. Et puis finalement, ils se sont aperçus que c'était pas de la méthamphétamine, mais tout simplement de la litière pour chat. Et donc voilà, donc faites gaffe, a priori c'est assez ressemblant quoi. Ça ne pas être de la bleue, hein, parce que la litière pour chat bleue, remarque si c'est peut-être bleu, on sait rien. Donc voilà, c'était pour ma petite brévouille des États-Unis.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Triste nouvelle hier au Sénat.
Oui, hier, le Parlement français a donné, après le vote du Sénat, donc hier, et celui préalable de l'Assemblée nationale du 22 décembre 2016, son accord définitif au lancement des travaux. De la ligne...
LGV, voilà, ouais. Le TAV.
Le Parlement italien avait fait de même en décembre 2016 pour la Chambre des députés et en novembre 2016 pour le Sénat. Sans s'élever les derniers obstacles à un chantier colossal de 12 ans, l'accord avait été signé en février 2015, puis complété en mars 2016 par Matteo Renzi et François Hollande. Avec l'adoption totale de cet accord, donc, les appels d'offres pour les marchés de travaux peuvent être lancés cette année pour un démarrage des chantiers en 2018. Ceci dit, si je compte bien, ça laisse quand même un an à la mobilisation pour s'organiser. Je dis ça comme ça. Un tunnel international de 57 km constituera l'ouvrage majeur de la ligne entre Saint-Jean-de-Maurienne en France et Souza en Italie. Soutenu par les deux pays, par la ville de Lyon bien sûr, et jusqu'à récemment par Turin, ce projet est contesté depuis des années par des militants écologistes, anticapitalistes et autres, tant du côté italien que français. Il faut savoir que le coût total est évalué à plus de 26 milliards d'euros qui seront partagés entre l'Union européenne et les deux pays. Du coup, entre l'Italie et la France. Après le vote définitif du Parlement, la société franco-italienne TELT, chargée de la construction et de l'exploitation de la nouvelle ligne, a exprimé, elle, sa satisfaction d'entrer dans la phase de construction. Voilà, donc mauvaise nouvelle pour les militants Notav qui est tombé hier.
Voilà, mais on peut toujours s'organiser et résister.
Et voilà, et après avoir parlé du TAV, on va rester en France. Puisque je suis sûr que vous vous demandez tous et toutes ce qu'on peut apprendre dans un stage de récupération des points donc pour un permis quand on a fait quelques infractions et que voilà, on est obligé de, donc il y a des stages qui existent et moi perso j'en ai jamais fait, mais je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait y apprendre. Et ben maintenant on a un petit peu une idée. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un jeune homme qui, en revenant d'un de ces stages là, s'est fait flasher à plus de 200 km/h. Donc voilà, ça s'est passé sur l'autoroute entre Phalsbourg et au niveau de Phalsbourg pardon, en Moselle. Donc voilà, a priori
ils
apprennent à bien conduire et à conduire à la bonne vitesse. Donc voilà, un peu plus informé.
Alors pour suivre, c'était une info qu'on a oublié de vous annoncer dans le fil, mea culpa, et on revient un petit peu sur l'information locale, donc ça part un peu dans tous les sens ce qu'il y a eu info, dis donc. Il s'agit d'un article qui a été publié aujourd'hui dans Mediapart et qui parle d'une combinaison assez étrange qui a été impulsée par la ville de Lyon, dirigée et le Grand Lyon et la métropole, tout ceci dirigé par Gégé Collomb, combinaison entre des bénéficiaires du RSA qu'on a fortement incité à devenir bénévole pendant l'Euro 2016. Alors, rappelez-vous, on vous en a parlé en décembre, c'était déjà ce qui avait été mis en place pour la Fête des Lumières, et on avait même fait un reportage où on avait rencontré de nombreux bénévoles. Eh bien, lors de l'Euro 2016, même chose, donc des allocataires du RSA, triés sur le volet, ont été donc incités à devenir bénévoles dans la fanzone de la place Bellecour. cours. Rappelez-vous cette fan zone où les fans pouvaient venir regarder, voir leur match sur un grand écran. Alors, le profil demandé était très précis. Le but, je cite le Grand Lyon, la dynamisation des parcours par des actions complémentaires à l'accompagnement et le développement de l'employabilité en organisant la valorisation d'activités et d'expériences non rémunératrices. Je répète, la valorisation d'activités et d'expériences non rémunératrices. C'est assez joliment dit, c'est du bon foutage de gueule. Alors, le Grand Lyon a recherché des bénévoles, on vous disait, triés sur le volet, qui devaient parler couramment français, qui avaient des notions d'anglais ou d'une autre langue étrangère parlée par les supporters de l'euro. Ils devaient également avoir le sens de l'accueil, être dynamiques, ouverts d'esprit et en capacité à aller vers les gens. À ce titre, là, je cite quand même pas mal d'éléments de langage du Grand Lyon. À ce titre, une, je cite, session de recrutement et des entretiens de motivation ont été organisés pour sélectionner les candidats au bénévolat avec à la clé une journée de formation pour être bénévole. Donc, pour une responsable lyonnaise d'une structure qui accompagne les allocataires sur le terrain, elle dit que si on parachute un allocataire, sur une fan zone pendant 3 ou 4 jours, c'est quoi le sens? Voilà ce qu'elle demande. Un bénéficiaire est de répondre, un bénéficiaire du RSA, ce n'est pas un pion et ce n'est pas notre métier en tant que travailleuse, travailleur de l'insertion de faire ça. Nous ne sommes pas là pour remplir des trous. Elle a un peu raison. Et la métropole, quant à elle, la métropole lyonnaise, dirigée par Gégé Collomb, qui se confond donc avec le Grand Lyon, sauf qu'en plus, elle a les pouvoirs du département sur son territoire, la métropole lyonnaise, donc, se défend et dit que les 30 bénévoles au RSA, donc ils étaient 30 au RSA, et à avoir joué les bénévoles sur la fan zone, ont obtenu un passeport France Bénévolat. Wouhou ! Qui mentionne cette expérience, la journée de formation, donc tu pourras le mettre sur ton CV, ainsi que les acquis dans le domaine du tourisme et sur les premiers secours. C'est ce que souligne le service communication de la métropole. Ce passeport, ajoute le service communication, est reconnu par Pôle emploi. Alors voilà, on rigole bien quand même, il nous faut rigoler, la littérature de la métropole est très drôle. Comme une preuve donc reconnue par Pôle emploi, et c'est une preuve d'acquis et de leur volonté de se remettre au travail. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, conclut la métropole dans ses éléments de langage, sur les 30 bénévoles, nous avons eu 30 retours positifs. Ils étaient tous contents de l'avoir fait. Voilà. Donc, est-ce un virage ou un accro, se demande la journaliste de Mediapart. Sans doute plutôt un virage, puisque c'est quelque chose qu'on voit venir dans de nombreuses municipalités, souvent à droite. Alors, celle de Lyon, on peut quand même dire qu'elle est plutôt à droite aussi. On va pas jouer sur les mots. Le premier soutien donc d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb entend bien remettre les titulaires du RSA au travail et il communique donc dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier.
Très bien, merci. On passe à un autre dossier assez... Une petite brève plutôt, juste pour vous dire que le 10 janvier, c'est quoi, il y a 15 jours, une quarantaine d'associations ont saisi le défenseur des droits des cas de 12 médecins ou dentistes qui avaient fait figurer pas de CMU ou pas d'AME. Du coup, je rappelle, la CMU, c'est la couverture maladie universelle, et l'AME, c'est l'aide médicale d'État, c'est pour les précaires ou les gens sans papier. Et donc, ils avaient fait figurer pas de CMU, pas d'AME sur leur page doctolib.fr ou monrendezvous.com. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des sites de prise de rendez-vous en ligne, en fait. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de vérifier, de chercher qui étaient ces médecins, mais peut-être qu'on peut quand même un peu regarder pour leur dire ce qu'on en pense. Et une instruction a été ouverte. Ils ont adressé, par le défenseur des droits, ils ont adressé des demandes d'explication à ces praticiens qui refusent ouvertement de soigner ces patients au tarif conventionnel, sans dépassement d'honoraires, comme la loi les y oblige. Donc ces refus de soins envers les précaires sont massifs, répétitifs. On sait que ça, que ça existe malheureusement, mais avec cet affichage sur les sites internet, la démarche de rejet est maintenant complètement décomplexée et ça fait un peu peur. On passe à la rubrique internationale.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et on commence par les brèves du Canu Info du vendredi.
Ouais, sans plus attendre, on va directement en Slovénie, dans un petit village, enfin petit, on sait rien, dans un village, où en fait...
Il fait froid en Slovénie, il y a de la neige.
A priori, il fait froid, hein, et donc ils sont obligés de prendre des mesures un peu spéciales pour dégeler les rues. Et donc voilà, et ben comme mesure un peu spéciale, et ben ils ont eu la bonne idée d'aller prendre du sel dans une usine locale de jambon et pour en foutre un peu partout dans le village pour que ça dégèle. Mais résultat, ben on a un village qui pue le jambon de partout. Et puis bah du coup bah tous les chiens et tout ils sont comme des dingues et donc voilà quoi.
Ils lèchent tout le sel.
Je pense que ça a dû rendre les gens heureux.
Plus sérieux, grève, beaucoup plus sérieux même, grève des ouvrières en Asie du Sud au Bangladesh, ouvrières du textile.
Oui, on en entend effectivement vraiment pas beaucoup, beaucoup parler, mais depuis plus d'un mois maintenant, au Bangladesh, des milliers de personnes se battent pour des conditions de travail dignes. Et déjà le 12 décembre dernier, on en avait un peu plus entendu parler de cette manif. C'était plusieurs milliers d'ouvrières et d'ouvriers du textile de la province d'Achulia, une grande région industrielle du Bangladesh, qui se sont arrêtés de travailler et ont manifesté pour un salaire décent. Manifestation qui s'était terminée dans le sang, faut dire. Ces femmes, puisque c'est 85% des travailleurs du textile dans le monde et dans ce pays sont des femmes, se battent pour un salaire décent, en l'occurrence le triple de leur salaire actuel, qui est de 5300 takas, c'est-à-dire 62 euros.
Par mois.
Par mois, oui.
Pour fabriquer les t-shirts, les pulls,
voilà.
Les pantalons.
Mais ça, c'est ma conclusion. Alors, j'aimerais bien que tu le dises pas tout de suite. Ce dernier donc salaire très bas les oblige à travailler des dizaines d'heures supplémentaires pour simplement survivre. Au Bangladesh, l'état de droit n'est pas garanti et revendiquer de meilleures conditions de travail est dangereux, puisqu'en effet, le droit de s'organiser en syndicat ou autre regroupement n'est pas reconnu. Comme ailleurs, le pouvoir est l'ami des grands industriels et notamment du secteur du textile, et la corruption est très répandue. La répression ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Ce sont 60 usines qui ont été fermées par leurs propriétaires, 1500 à 2000 travailleurs en grève qui ont été licenciés, avec des plaintes portées contre 1000 d'entre eux. À ce jour, c'est encore 14 leaders syndicaux qui sont toujours emprisonnés, sans motif valable. Du coup, c'est là ma transition, puisqu'effectivement, ici en France, mais ailleurs, en Europe en général, on est effectivement un peu tous concernés et liés à ces luttes de ces ouvrières, puisque oui, c'est elles qui fabriquent les vêtements que l'on achète et que l'on porte tous les jours, puisque Benetton, H&M, qui essayent en ce moment de nous la faire un peu à l'envers, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont une nouvelle sous-marque un peu qui s'appelle Conscious, là, un peu vert et tout, genre... Non, on n'exploite pas des gens à l'autre bout du monde pour faire ses vêtements et ils ont une petite marque Conscious comme
le
ça.
Le greenwashing.
Ouais, voilà, c'est complètement ça. Mais aussi Gap, Zara, Primark ou encore Auchan, c'est autant de marques qui sous-traitent la fabrication de leurs vêtements sur place, donc au Bangladesh et ailleurs aussi, évidemment. Voilà, donc se tenir un peu au courant de ce qui se passe là-bas, quoi.
D'accord, et on vous en donnera sans doute des nouvelles dans le Canu Info, bien sûr. Et tout de suite, on revient en Europe. Et aujourd'hui, en Europe, vendredi 27 janvier, les États membres de l'Union se sont prononcés par la voix de leurs représentants sur deux votes cruciaux au sujet de quoi ? Des OGM, les organismes génétiquement modifiés, thème très controversé en Europe justement depuis des décennies, et heureusement que c'est controversé, ou en tout cas heureusement qu'il y a des barrières. Alors, pourquoi il y avait un vote tout à l'heure ? Parce que ce vote y portait sur le renouvellement du permis d'un maïs de Monsanto, qui est actuellement la seule plante transgénique cultivée sur le sol européen. Et puis il y avait également un vote sur deux autres OGM qui actuellement ne sont pas autorisés. L'autorisation de la culture d'un autre maïs, celui de l'entreprise Dupont Pionnier. Et puis un troisième maïs, toujours, d'une troisième entreprise qui s'appelle Syngenta ou Syngenta. Alors, pour être autorisé ou au contraire définitivement rejeté, les nouveaux OGM nécessitaient une majorité qualifiée. C'est quoi une majorité qualifiée ? C'est 55% des États membres qui votent pour ou contre, et qui représenteraient, ces 55% des États membres représenteraient 65% de la population de l'Union. Alors, quels ont été les résultats du vote ? 12 États se sont opposés au maïs de Monsanto, tandis que 10, lui, ont été favorables, et il y a eu 6 abstentions. 13 pays ont voté contre les deux nouveaux maïs, et 8 ont voté pour, avec 7 abstentions. Donc, il n'y a pas véritablement de majorité qualifiée qui a été dégagée après ce vote. Et alors, qui a voté comment ? La France est devenue le fer de lance de la lutte contre les plantes transgéniques. Elle s'est donc prononcée contre, de même que l'Autriche, la Hongrie ou la Pologne. Et à l'inverse, l'Espagne, le Royaume-Uni, qui vote toujours dans l'Union européenne, ou les Pays-Bas, sont comptés, eux, dans les rangs des pro-OGM. Ils ont donc voté pour le maintien de l'OGM Monsanto et l'introduction de deux nouveaux OGM de maïs. Voilà. Un deuxième vote devrait être organisé au printemps lors d'un comité d'appel, et en cas de nouvel échec pour dégager une majorité qualifiée, la balle sera dans le camp de la Commission, et ça c'est très très grave, puisque la Commission européenne, depuis le début et depuis des décennies, elle soutient la culture des OGM, et sur ce dossier elle soutient la culture de ces trois OGM. Alors, quant au Parlement européen, qu'est-ce qu'il dit le Parlement européen ? Le Parlement, lui, dit, il l'a refusé en octobre 2016, nouvelles introductions, et il avait même appelé en décembre 2015, on s'en rappelle, à un moratoire sur toutes les autorisations d'importation d'OGM, qui sont cultivées ailleurs dans le monde et qui sont importées dans l'Union européenne. Petit topo peut-être des OGM dans l'Union européenne rapidement. Aujourd'hui, le maïs vedette de Monsanto, le seul donc qui est cultivé sur le sol européen pour l'alimentation humaine et animale, l'est depuis 1998. On compte 136 000 hectares plantés, mais essentiellement en Espagne, puisque sur les 136 000 hectares plantés, il y en a 129 000 hectares en Espagne.
Ah oui.
Le reste, c'est le Portugal et 100 hectares en Slovaquie et 75 hectares, c'est-à-dire complètement peanuts, en République tchèque. Mais par contre, on trouve beaucoup d'OGM en Europe par le biais des importations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au total, une quarantaine d'entre eux, de plantes OGM, sont autorisées à la mise sur le marché. En premier lieu, le soja, mais également du maïs, du coton, de la betterave et de la pomme de terre. Et c'est surtout, et même essentiellement, donc ces 40 millions de tonnes de soja transgénique, notamment, qui entrent dans l'Union européenne, c'est surtout pour alimenter le bétail. Voilà.
Bien, merci. Alors, rien à voir avec les OGM. On quitte l'Europe pour aller aux États-Unis. Et puisque dans la soirée de vendredi à samedi, mais dernier, la semaine dernière, parce que j'ai encore pas le pouvoir de vous dire ce qui va se passer cette nuit, il y a eu de nombreuses manifestations anti-Trump et anti-capitalistes, comme vous avez dû en entendre parler, et celles qui passaient par l'université de Washington à Seattle y passaient aussi pour contrer et empêcher un discours pro-Trump du fasciste Milo Yiannopoulos. Alors j'ai regardé un peu qui c'était, on peut le décrire comme un peu un provocateur masculiniste raciste. Il est aussi journaliste du site néo-conservateur Breitbart, et pour vous dire, il a même déjà été viré de Twitter tellement il y tenait des propos racistes. C'est pour un chic type. Donc pendant cette manifestation, un membre des IWW, c'est le...
C'est-à-dire ?
International Worker of the World.
Wow.
Et c'est donc une confédération syndicaliste révolutionnaire aux États-Unis. Et donc un de ses membres, lors de cette manifestation anti... contre Milo Yiannopoulos et anti-Trump, a reçu une balle à bout portant et il est du coup toujours aujourd'hui à l'hôpital dans un état critique. Alors pour aussi faire un peu le comparaison, dans les villes jumelles, à Minneapolis et à Saint-Paul, vient de commencer le procès de Alan Scarsella. Alors lui aussi, j'ai regardé, c'est aussi un peu un pote à Milo. Hein,
Un chic type,
voilà, qui en novembre 2015...
Une pauvre tâche, comme tu dis.
Oui, c'est ça. Qui avait ouvert le feu, tiré sur de nombreuses personnes lors d'une manifestation organisée suite à la mort d'un Afro-Américain tué par la police. Tellement il est raciste, le mec, il tire sur les gens qui font une manifestation de soutien. Enfin bref. Donc voilà, donc on n'a pas la confirmation que la personne qui a tiré vendredi dernier était un contre-manifestant en colère contre ceux qui protestaient contre la détestable misogynie blanche nationaliste de Milo et de Trump. Mais ce type donc, qui a tiré sur le militant du syndicat s'est rendu lui-même à la police plusieurs heures plus tard en revendiquant la légitime défense. C'était la même logique que le fameux Scarsella avait fait quelques années plus tôt. Voilà, donc du coup, il y a un peu un comité de soutien à ce militant qui tourne, et notamment aussi parce qu'il crée une caisse de soutien là, pour les frais d'hôpitaux et aussi sûrement par la suite pour les frais judiciaires. Et du coup, en France, c'est relayé notamment par la CNT. Donc vous pouvez trouver les infos et le lien pour faire un don, si vous souhaitez faire un don, sur le site de la CNT qui est cnt-f.org. Voilà.
Merci. L'agenda extrêmement rapide peut-être, puisqu'il nous reste très peu de temps. Allez, vas-y, commence.
Eh bien, juste vous rappeler que demain, c'est la marche blanche à 14h30. On appelle du comité Vérité et Justice pour Mehdi, donc en mémoire pour Mehdi, qui est au départ du lieu de son décès à l'angle des rues de Pressensé et Salengro.
Alors, c'est au 95 rue du Pressensé.
Voilà, c'est ça. Et pour y aller, il y a deux bus. Il y a le 16-16 arrêt Viviani ou le bus 35 arrêt Pressensé-Marane.
Et puis il y a des festivités et des amusements à Grenoble demain soir.
Oui, c'est ça, mais ça vous avez toutes les infos aussi sur Indie Media, Grenoble, c'est au Roxy Cooper du coup, si... voilà, il y a tout, il y a concerts, tout ça, c'est à partir de 15h projection et c'est jusqu'au bout de la nuit.
Et réservez votre week-end du 18 février pour aller à Saint-Julien-Moulin-Molette où il y a un grand week-end de manifestations et de festivités pour lutter contre l'extension d'une carrière. On vous en reparlera. Faites attention ce soir dans les rues de Lyon, il y a un concert
c'est
de
demain,
néo-nazis, c'est demain, ils vont arriver dès ce soir.
Ouais.
Hein, vous baladez pas tout seul avec des t-shirts révolutionnaires, de toute façon on n'est pas en t-shirt, il fait trop froid. Et maintenant, c'est l'heure de
Noise Pollution.